Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la députée et capitaine de l'armée de terre, Laetitia Saint-Paul.
Bonjour Laetitia Saint-Paul.
Bonjour madame.
Bonjour capitaine, vous êtes la première militaire d'active à siéger à l'Assemblée nationale depuis 1918. Vous aviez 200 hommes sous vos ordres et vous avez été élue députée un 18 juin, ça ne s'invente pas. Vous publiez donc « Mission tenir de l'armée à l'Assemblée nationale » coécrit avec Céline Cabour aux éditions Lattès. Avant de parler de votre parcours, permettez-moi de revenir sur l'actualité avec le coup d'accélérateur de la campagne de vaccination contre le Covid. On a vacciné dimanche, hier, autant que toute la semaine passée. 500 000 de vaccinés en un week-end. On n'aurait pas pu faire ça plus tôt, bon sang ? On n'aurait pas
J'étais spécialiste de logistique.
Et je pense que c'est pour ça que je vous posais la question.
Et je pense que tout le monde peut se représenter la complexité logistique de la chaîne vaccinale. Nous avons 3 vaccins différents, qui ont des conditions de stockage différentes, qui ont des effets secondaires différents et qui ne sont pas efficaces de la même manière selon les classes d'âge. Donc c'était un vrai casse-tête logistique, en plus d'importation. Donc après, il a fallu déployer toute la chaîne de l'arrivée jusqu'à destination. Et pour vacciner en masse, encore faut-il avoir des vaccins en masse. Et là, c'était le cas. Et comme à l'armée, l'opérationnel prime, eh bien, toutes les forces vives sont et seront déployées.
Mais on est en retard d'un point de vue, on a été en retard d'un point de vue logistique. Vous étiez officier en charge des explosifs. En plus, vous savez de quoi vous parlez. Ça aurait dû être une priorité, la logistique. Oui. Regardez Mario Draghi, le président du Conseil italien, il vient de nommer un général réputé chargé de la logistique au sein des forces armées italiennes qui occupe là le poste de commissaire urgence Covid. Ça aurait dû être la priorité.
Alors dans les forces armées, il y a aussi ce mythe comme quoi la logistique suivra, que les combattants en première ligne sont l'essentiel puisque c'est eux qui mèneront le combat. Et la logistique est souvent négligée. Et effectivement, pour que les vaccins arrivent jusqu'au plus bas échelon, jusqu'au plus près de la population, eh bien, il faut que cette chaîne logistique soit efficace. Donc je ne vais pas vous contredire, la logistique est souvent la clé.
Il faut des vaccinodromes, Laetitia Saint-Paul. Est-ce que c'est important d'avoir des gros barnums où on vienne vacciner en masse maintenant ?
Aujourd'hui, pour combattre ce fléau qu'est le Covid, il faut de la masse. C'est la clé de la réussite et de notre résilience. Donc oui, il faut de la masse et il faut que toutes les forces vives puissent vacciner médecins, infirmières, sages-femmes, pharmaciens. Tous ceux qui ont la compétence pour le faire doivent maintenant le faire.
Et est-ce qu'il faut obliger les soignants à se faire vacciner ? Ça, c'est un débat chez vous. Est-ce qu'il faut les obliger ?
Je vais vous parler de l'armée. En fait, les militaires, pour la grippe saisonnière, nous étions vaccinés une fois tous les 3 ans, par tiers, pour qu'il y ait une continuité stratégique de notre action en permanence. Et en fait, en tant que militaire, et vu la charge qui pesait sur nos épaules, on ne se posait pas la question. Donc effectivement, là aujourd'hui, la continuité de la nation passe par la vaccination des soignants. Et je les encourage très fortement à le faire. Et le message a été entendu.
Et je les en
remercie parce que souvent dans les conflits, ce sont les militaires qui sont la clé de la sécurité. Aujourd'hui, c'est eux et je les en remercie vivement pour tout ce qu'ils font et pour s'inscrire dans cette démarche.
Laetitia Saint-Paul, vous êtes passée d'un univers où les femmes ne représentent que 15% des effectifs, l'armée, à un univers où il y a désormais plus de 38% des femmes, ça c'est l'Assemblée. Ça vous a fait quel effet de travailler avec autant de femmes d'un coup ?
Je suis tellement heureuse de plus me poser la question d'être une femme. Et je remercie celles qui m'ont précédée, parce que clairement, à l'armée, je fais partie de celles qui ont fait la trace. Et ce n'est pas le cas en politique. Le travail avait été fait avant, des mentalités de représentativité. Et j'arrive pour la première fois de l'histoire, et ça, on n'en parle plus du tout, de ce petit miracle effectué par Emmanuel Macron. J'arrive au sein d'un groupe majoritaire paritaire. Et je crois que c'est important de le rappeler. En fait, maintenant, ça paraît normal. Les grandes avancées, très rapidement, paraissent évidentes.
Alors, c'est pas tout à fait encore juste dans l'équipe de conseillers du président Macron. Alors, c'est vrai que le gouvernement est paritaire, l'Assemblée du côté de l'LREM aussi. Mais dans l'équipe de conseillers du président Macron, il y a 12 femmes et un homme. Il y a 12 hommes et une femme, pardon.
Je suis ravie de cette excellente nouvelle. Merci. Je plaisante quand vous avez dit 12 femmes et un homme. Je crois que quand on ne puisse pas dans 100% des forces vives et qu'on ne puisse que dans 50% de ces forces vives, forcément, on passe à côté de talents.
Il passe à côté de talents, donc, le président ?
Eh bien, effectivement, puisque visiblement, 12 hommes et une femme, ils passent nécessairement à côté de talents. Mais j'oublie pas tout ce qu'il a fait pour nous et le fait que si je suis là aujourd'hui à m'exprimer auprès de vous, c'est bien parce qu'il est venu chercher toutes les forces vives du pays. Et notre groupe politique est complètement paritaire.
Alors, je voulais revenir à votre parcours dans l'armée. Dans votre livre, vous racontez une scène qui vous a choquée. Lorsque vous étiez enceinte de votre premier enfant, vous commandiez votre compagnie. Et votre général vous a dit « Mais vous n'allez pas donner vos ordres dans cet état-là ». Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?
Je lui ai répondu, je suis tellement certaine de ma légitimité que mes ordres, s'il fallait que je les donne en maillot de bain, je les donnerais en maillot de bain.
Et donc ?
Ouais, il a tourné les talons, je pense qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui tienne tête. Et c'est ce qu'on est obligé de faire, les femmes. Souvent, on est obligé de s'accorder davantage de liberté. Et en fait, j'ai même dressé une cartographie complète de la misogynie. Je suis amusée à le faire parce qu'en fait, c'est toujours à nous qu'on demande d'avoir... de garder nos nerfs, d'avoir une réponse appropriée. Donc j'ai tout hiérarchisé et ça m'aide dans mes fonctions de vice-présidente. Donc je commence en haut de la chaîne alimentaire par le misanthrope. Bon, lui, il n'aime pas les femmes par défaut, puisque de toute façon, il n'aime pas le genre humain. Le misogyne, le macho, le séducteur, le paternaliste. Et au niveau zéro de la misogynie, la grande majorité des hommes qui sont des gens bien.
Vous êtes féministe ?
Je suis féministe, mais pas ce féminisme victimaire et conflictuel. Je crois vraiment que nous avons tout intérêt à marquer la complémentarité entre les femmes et les hommes et pas entrer en conflictualité. Et c'est ce féminisme que je porte et cette idée que je ne supporte pas de passer à côté de talents, mais que ce soit des talents masculins, féminins, quels qu'ils soient en fait. Ces talents éteints à cause de préjugés.
Ça vous dérange, hein, ce néo-féminisme, celles qui disent qu'il faut être en lutte contre la domination masculine ? C'est ça qui vous dérange ?
Oui, je ne me reconnais pas du tout dans ce féminisme-là et je ne crois pas que la majorité des Français s'y reconnaissent.
C'est minoritaire, pensez-vous ?
Je pense que c'est minoritaire.
Il y a une femme qui vous a inspiré ?
Alors, je l'explique aussi dans mon livre, c'est ce que j'ai déploré, manquer de modèle. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cet effort de témoignage. Simone Veil fait partie de ces femmes politiques qui m'ont inspirée. Et la première femme pilote de chasse de notre histoire aussi, qui a eu un destin tragique puisqu'elle est morte très jeune d'un cancer. Et elle a été une grande source d'inspiration.
Alors Laetitia Saint-Paul, les Français font confiance à l'armée et aux militaires à 80%. Le taux de confiance envers les députés, c'est au mieux 20%. Que diable êtes-vous allé faire dans cette galère ?
Eh bien, c'est aussi ce que j'explique dans mon livre « Mission tenir », qu'il y a une absolue continuité entre mon engagement militaire et mon engagement politique au service du bien commun. Et les valeurs qui m'animaient en tant que militaire sont exactement les mêmes aujourd'hui, de courage, de dépassement de soi, de sens du bien commun, de collectif et de promotion de la France.
Parce du collectif ?
Oui.
Vous êtes toujours sûr qu'il y a du collectif en politique ?
Mais en tout cas, j'œuvre en ce sens et c'est pas parce qu'il y a des différences qu'il ne peut pas avoir de collectif et aussi de promotion de la France et ses valeurs à travers le monde. Et c'est ce qui m'anime en tant que vice-présidente aux affaires internationales.
Mais la différence entre le monde militaire et le monde politique, il se joue sur quel tableau selon vous ?
Alors, l'ennemi n'est pas le même, le terrain n'est pas le même, les modes d'action ne sont pas les mêmes, mais au final... Au final, le but a beaucoup de points communs.
J'ai une question sur l'actualité internationale. Cela fait 10 ans que le conflit en Syrie a commencé. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux, Laetitia Saint-Paul. On y voit deux femmes djihadistes qui s'expriment en français et qui disent « La Syrie, le djihad, c'était une aventure comme d'autres vont en Inde. Nous, c'était pas top cette aventure, donc maintenant on veut rentrer à la maison. » On doit faire rentrer ces gens-là en France ?
Absolument pas. Moi, je ne suis pas du tout pour le retour des djihadistes. Dans la vie, il faut assumer ses actes et ses conséquences. Et non, on ne part pas faire le djihad comme on part en voyage. Ce n'est pas une expérience comme une autre. Et j'entends bien que ces femmes soient jugées sur place, là où elles ont commis leurs crimes.
Votre avenir, vous le voyez comment ? En politique ? Dans l'armée ?
Je suis vraiment passionnée par ce que je fais et j'ai la foi absolue en l'action politique. Ça ne s'est pas fané au bout de 4 ans de mandat et j'ai l'intention de me représenter l'an prochain, en 2022.
Et pas être ministre ?
C'est pas l'ambition que je porte. J'ai envie d'être un bon député pour ma terre d'élection, le Maine-et-Loire et en particulier le Saumurois. Et j'adore mes fonctions de vice-présidente et cet aspect international. En fait, quand on est député, le champ des possibles est infini entre le local, le national et l'international. C'est vraiment une mission passionnante.
Merci beaucoup Laetitia Saint-Paul. Je rappelle votre livre « Mission, tenir de l'armée à l'Assemblée nationale » aux éditions Lattès. Merci beaucoup.
Merci.
Grâce à Emmanuel Macron, je siège dans un groupe parfaitement paritaire à l'Assemblée. Vient de nous dire notamment votre invitée Laetitia Saint-Paul, l'intégralité de l'entreprise.